Deuxième partie, chapitre 4. 4 jours après, la nouvelle mariée, au fond de la maison très ancienne et tout à fait seigneuriale de son jeune maître, est seule dans la partie du harem qu'on lui a donnée comme salon particulier. Un salon Louis XVI, blanc, or et bleu pâle, fraîchement aménagé pour elle. Sa robe rose, venue de la rue de la Paix, est faite de tissus impalpables qui ont l'air de nuages enveloppants. Ainsi que l'exige la fantaisie de la mode ce printemps-là, et ses cheveux sont arrangés à la façon la dernière inventée. Dans un coin, il y a un bureau, laqué blanc, à peu près comme celui de sa chambre à Kassim Pacha, et les tiroirs ferment à clé, ce qui était son rêve. On croirait une Parisienne chez elle, sans les grillages bien entendu, et sans les inscriptions d'islam brodées sur de vieilles soies précieuses qui, çà et là, décorent les panneaux des murailles. Le nom d'Allah et quelques sentences du Coran. Il est vrai, il y a aussi un trône qui surprendrait à Paris. Son trône de mariage, très pompeux, surélevé par une estrade à 2 ou 3 marches, et couronné d'un baldaquin d'où retombent des rideaux de satin bleu, magnifiquement brodés de grappes de fleurs en argent. Pour tout dire, il y a bien encore la bande Conjagul, dont l'aspect n'est pas très parisien. Assise près d'une fenêtre, elle chantonne tout bas un air du Pays Noir. La mère du Bay est la dame 1320, un peu niaise, aux manières de vieille chatte, s'est montrée au fond une créature inoffensive, plutôt bonne et qui pourrait même être excellente, n'était son idolâtrie aveugle pour son fils. La voici du reste séduite tout à fait par la grâce de sa belle-fille, tellement qu'hier elle est venue d'elle-même lui offrir le piano tant désiré. Vite alors, en voiture fermée, sous l'escorte d'un eunuque, on a passé le pont de la Corne d'Or pour aller en choisir un dans le meilleur magasin de Péra, et 2 relèves de portefeuille avec des mâts de charge viennent d'être commandés pour l'apporter demain matin à l'épaule dans ce haut quartier d'un accès plutôt difficile. Quant au jeune Bey, l'ennemi, le plus élégant capitaine de cette armée turque où il y a tant d'uniformes bien portés, décidément très joli garçon, avec la voix douce que Conjagul l'avait annoncée et le sourire un peu félin que lui a légué sa mère. Quant au jeune Bey, jusqu'ici d'une délicatesse accomplie, il fait à sa femme, dont la supériorité lui est déjà apparue, une cour discrète, moitié enjouée, moitié respectueuse, et comme c'est la règle en Orient, dans le monde, il s'efforce de la conquérir avant de la posséder. Car si le mariage musulman est brusque et insuffisamment consenti avant la cérémonie, après, en revanche, il a des ménagements et des pudeurs qui ne sont guère dans nos habitudes occidentales. De service chaque jour au palais d'Idlis, Hamdi Bey rentre à cheval le soir, se fait annoncer chez sa femme et s'y tient d'abord comme en visite. Après le souper, il s'assied plus intimement sur un canapé près d'elle pour fumer en sa compagnie ses cigarettes blondes, et tous deux alors s'observent et s'épient comme des adversaires en garde. Lui, tendre et câlin, avec des silences pleins de troubles. Elle, spirituelle, éblouissante tant qu'il ne s'agit que d'une causerie, mais tout à coup le désarmant par une résignation affectée d'esclave s'il tente de l'attirer sur sa poitrine ou de l'embrasser. Ensuite, quand 10 heures sonne, il se retire en lui baisant la main. Si c'était elle qui l'eût choisi, elle l'aurait aimé probablement. Mais la petite princesse indomptée de la plaine de Kalanchéamir ne fléchirait point devant la maître imposée. Elle savait du reste que le temps était tout proche et inévitable, où ce maître, au lieu de la saluer courtoisement le soir, la suivrait dans sa chambre. Paul ne tenterait d'aucune résistance, ni surtout d'aucune prière. Elle avait fait de sa personnalité cette sorte de dédoublement coutumier à beaucoup de jeunes femmes turques de son âge et de son monde qui disent « Oh, mon corps a été livré par contrat à un inconnu, et je le lui garde parce que je suis honnête. Mais mon âme, qui n'a pas été consultée, m'appartient encore, et je la tiens jalousement close, en réserve pour quelque amante idéale que je ne rencontrerai peut-être point, et qui, dans tous les cas, n'en sera sans doute jamais rien. Donc, elle est seule chez elle, tout l'après-midi, la jeune mariée. Aujourd'hui, en attendant que l'ennemi rentre d'Ilziz, l'idée lui vient de continuer pour André son journal ininterrompu et de le reprendre à la date fatale du 28 Zilidje 1318 de l'Égir, jour de son mariage. Les anciens feuillets du reste lui reviendront demain. Elle les a redemandés à l'ennemi qui en était chargé, trouvant ce nouveau bureau assez sûr pour les déposer là. Et elle commence d'écrire. Le 28 Zilidje 1318, 19 avril 1901 à la Franque. C'est ma grand-mère en personne qui vient me réveiller. Oh, cette nuit-là, je m'étais endormie si tard. Dépêche-toi, me dit-elle. Tu oublies sans doute que tu devras être prête à 9 heures. On ne dort pas ainsi le jour de son mariage. Que de dureté dans l'accent. C'était la dernière matinée que je passais chez elle, dans ma chère chambre de jeune fille. Ne pouvait-elle s'abstenir d'être sévère, ne fût-ce qu'un seul jour? En ouvrant les yeux, je vois mes cousines qui se sont déjà levées sans bruit et qui mettent leur tchatchaf. C'est pour rentrer vite au logis, commencer leur toilette qui sera longue. Jamais plus ne nous éveillerons là ensemble, et nous échangerons encore de grands adieux. On entend les hirondelles chanter à cœur joie. On devine que dehors le printemps est splendide. Une claire journée de soleil se lève sur mon sacrifice. Je me sens comme une noyée à qui personne ne voudra porter secours. Bientôt, dans la maison, un vacarme d'enfer. Des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des pas empressés, des bruits de traite de soie. Des voix de femmes et puis les voix de fausset des nègres. Des pleurs et des rires, des sermons et des plaintes. Dans ma chambre, entrée continue et sortie continuelle, les parentes, les amis, les esclaves, toute une foule qui vient donner son avis sur la manière de coiffer la mariée. De temps à autre, un grand nègre de service rappelle à l'ordre et supplie qu'on se dépêche. Voici 9 heures, les voitures sont là, le cortège attend la belle-mère, les belles-sœurs, les invités du jeune bey. Mais la mariée n'est pas prête. Les dames qui l'entourent s'empressent alors de lui offrir leur service. Mais c'est leur présence, justement, qui complique tout. À la fin, nerveuse, elle les remercie et demande qu'on lui laisse place. Elle se coiffe elle-même, passe fiévreusement sa robe garnie de fleurs d'oranger qui a 3 mètres de queue, met ses diamants, son voile et les longs écheveaux de fil d'or à sa coiffure. Il est une seule chose qu'elle n'a pas le droit de toucher, son diadème. Ce lourd diadème de brillants, qui remplace chez nous le piquet de fleurs des Européennes, l'usage veut que pour le placer en choisisse parmi les amies présentes, une jeune femme s'étant mariée qu'une fois, n'ayant pas divorcé et notoirement heureuse en ménage. Elle doit, c'est élu, dire d'abord une courte prière de Coran, puis couronner de ses mains la nouvelle épouse, en lui présentant ses vœux de bonheur et en lui souhaitant surtout que pareil couronnement ne lui arrive qu'une fois dans la vie. En d'autres termes, vous comprenez bien, André, ni divorce ni remariage. Parmi les jeunes femmes présentes, une semblait tellement indiquée qu'à l'unanimité on l'a choisie. Javide, ma bien chère cousine. Que lui manquait-il à celle-là? Jeune, belle, immensément riche, et mariée depuis 18 mois à un homme réputé si charmant. Mais quand elle s'approche pour frapper son bonheur sur ma tête, je vois deux grosses larmes perler à ses paupières. « Ma pauvre chérie, me dit-elle, pourquoi donc est-ce moi? Oh, j'ai beau n'être pas superstitieuse, je ne pourrai jamais me consoler de t'avoir donné mon bonheur. Oh, si dans l'avenir tu es appelée à souffrir comme je souffre, il me semblera que c'est ma faute, mon crime. Alors, celle-là aussi, en apparence la plus heureuse de toutes, celle-là aussi, en détresse. Oh, malheur sur moi! Avant que je quitte cette maison, personne donc n'entendra mon cri de grâce. Mais le diadème est placé, je dis, je suis prête. Un grand nègre s'avance pour prendre ma traîne de robe, et par des couloirs, je m'achemine vers l'escalier. Ces longs couloirs, nuit et jour, garnis de servantes ou d'esclaves, qui précèdent toujours nos chambres, André, afin que nous y soyons comme en souricière. On me conduit en bas, dans le plus grand des salons, où je trouve réunie toute la famille. Mon père, d'abord, à qui je dois faire mes adieux. Je lui baise les mains. Il me dit des choses de circonstances que je n'entends point. On m'a bien recommandé de le remercier ici, publiquement, de toutes ses bontés passées, et surtout de celle d'aujourd'hui, de ce mariage qu'il me fait faire. Oh non, cela est au-dessus de mes forces. Oh, je ne peux pas. Alors je reste devant lui, muette et glacée, détournant les yeux, pas un mot ne sort de mes lèvres. Il a conclu le pacte, il m'a livré, perdu, il est responsable de tout. Le remercier, quand au fond de moi-même je le maudis. Oh, c'était donc possible cette chose affreuse? Sentir tout à coup que l'on en veut mortellement à l'être qu'on a le plus chéri. Oh, la minute atroce, celle où l'on passe de l'affection la plus tendre à la haine la plus toute pure. Mais je souriais toujours, André, parce que ce jour-là, il faut sourire. Pendant que de vieux oncles me donnent leur bénédiction, les dames du cortège, qui prenaient des rafraîchissements dans le jardin sous les platanes, commencent de mettre leur tchatchaf. La mariée seule peut ne pas mettre le sien, mais les nègres tiennent des draperies en soie de dama pour lui faire comme un corridor et la rendre invisible aux gens de la rue entre la porte de la maison et le landau fermé dont les glaces sont masquées par des panneaux de bois à petits trous. Il est l'heure de partir et je franchis ce couloir de soie tendue. Zeyneb et Médèque, mes demoiselles d'honneur, toutes deux en domino bleu par-dessus leur toilette de gala, me suivent, montent avec moi, et nous voici dans une caisse bien close, impénétrable au regard. Après la mise en voiture, qui me fait l'effet d'une mise en bière, un grand moment se passe. Ma belle-mère, mes belles-sœurs, qui étaient venues me chercher, n'ont pas fini leur verre de sirop et retardent tout le départ. Oh, tant mieux, c'est autant de gagner. Un quart d'heure de moins que j'aurais donné à l'autre. La longue file de voitures cependant s'ébranle, la mienne en tête et les chaos commencent sur le pavé des rues. Pas un mot ne s'échange entre mes deux compagnes et moi. Dans notre cellule mouvante, nous nous en allons en silence et sans rien voir. Oh, cette envie de tout casser, de tout mettre en pièces, d'ouvrir les portières et de crier aux passants « Sauvez-moi, on me prend mon bonheur, ma jeunesse, ma vie !» Et les mains se convulsent, le teint s'empourpre, les larmes jaillissent, tandis que les pauvres petites devant moi sont comme terrassées par ma trop visible souffrance. Maintenant le bruit change, on roule sur du bois. C'est l'interminable pont flottant de la Corne d'Or. En effet, je vais devenir une habitante de l'autre rive. Et puis commencent les pavés du grand Stamboul. Je me sens aussitôt plus affreusement prisonnière, car je dois approcher beaucoup de mon nouveau cloître, d'avance aboré. Et comme il est loin dans la ville, par quelles rues nous fait-on passer? Par quelles impossibles rampes? Mon Dieu, comme il est loin et combien je vais être sinistrement exilé! On s'arrête enfin et ma voiture s'ouvre. Dans un éclair, j'aperçois une foule qui attend devant un portail sombre. Des nègres en redingote, des cavas chamarrés d'or et de décoration, des intendants à chalevard, jusqu'au veilleur de nuit du quartier avec son long bâton. Et puis, crac, les voiles de damas tendues à bout de bras ainsi qu'au départ m'enveloppent, je redeviens invisible et ne vois plus rien. Je fonce en affolé dans ce nouveau couloir de soie et trouve au bout un large vestibule plein de fleurs où un jeune homme blond, en grand uniforme de capitaine de cavalerie, vient à ma rencontre. Le sourire aux lèvres, tous deux, nous échangeons un regard d'interrogation et de défi suprême. C'est fait, j'ai vu mon maître, et mon maître m'a vu. Il s'incline, m'offre le bras, m'emmène au premier étage, où je monte comme emporté, me conduit au fond d'un grand salon vers un trône à trois marches sur lequel je m'assieds, puis me resalue et s'en va. Son rôle à lui est fini jusqu'à ce soir. Et je le regarde s'en aller. Il se heurte à un flot de dames qui envahit les escaliers, les salons, un flot de gaz légère, de pierreries, d'épaules nues. Pas un voile sur ses visages ni sur ses chevelures endiamantées. Tous les tcharchafs sont tombés de la porte. On dirait une foule d'Européennes en toilette du soir. Et le marié, qui n'a jamais vu et ne reverra jamais pareille chose, me semble troublé malgré son aisance, seul homme perdu au milieu de cette marée féminine et point de mire de tous les regards qui le détaillent. Il a fini, lui, mais moi, j'en ai pour toute la journée à faire la bête rare et curieuse sur mon siège de parade. Près de moi, il y a d'un côté Mademoiselle Esther, de l'autre Zeneb et Melek, qui elles aussi ont dépouillé le tcharchaf et sont en robe ouverte, fleurs et diamants. Je les ai priées de ne pas me quitter pendant le défilé devant mon trône, qui sera interminable. Les parentes, les amis, les simples relations, chacun me posant la question exaspérante. « Eh bien, cher, comment le trouvez-vous »« Est-ce que je sais, moi, comment je le trouve ?»« Un homme dont j'ai à peine entendu la voix, à peine entrevu le visage, et que je ne reconnaîtrai pas dans la rue. » Pas un mot ne me vient pour leur répondre. Un sourire seulement, puisque c'est de rigueur, ou plutôt une contradiction des lèvres qui s'y ressemblent. Les unes, en me demandant cela, ont une expression ironique et mauvaise. Les aigris, les révoltés. D'autres croient devoir prendre un certain petit air d'encouragement. Les accommodantes, les résignées. Mais dans le regard du plus grand nombre, je lis surtout l'incurable tristesse. Avec la pitié pour une de leurs sœurs qui tombe aujourd'hui dans le gouffre commun, devient leur compagne d'humiliation et de misère. Et je souris toujours des lèvres. Oh, c'était donc bien ce que je pensais, le mariage !» J'en ai la certitude à présent. Dans leurs yeux à toutes, je viens de le lire. Alors je commence à songer sur mon trône de mariée qu'il y a un moyen, après tout, de se libérer, de reprendre possession de ses actes, de ses pensées, de sa vie. Un moyen qu'Allah et le prophète ont permis. Oui, c'est cela, je divorcerai. Mais comment donc n'y avais-je pas passé plus tôt? Isolé à présent de la foule et concentré en moi-même, bien que souriant toujours, je combine ardemment mon nouveau plan de campagne. J'escompte déjà le bienheureux divorce. Après tout, les mariages dans notre pays, quand on le veut bien, se défont si vite. Mais que c'est joli pourtant, ce défilé. Je m'y intéresserais vraiment beaucoup si ce n'était moi-même la triste idole que toutes ces femmes viennent voir. Rien que des dentelles, de la gaze, des couleurs claires et gaies, pas un habit noir, il va sans dire, pour faire tache d'encre, comme dans vos galas européens. Et puis, André, d'après le peu que j'en ai vu aux ambassades, je ne crois pas que vos fêtes réussissent, réunissant de charmantes figures que les nôtres. Toutes ces Turques invisibles aux hommes sont si fines, élégantes, gracieuses, souples comme des chattes. J'entends les Turcs de la génération nouvelle, naturellement. Les moins bien ont toujours quelque chose pour elles. Toutes sont agréables à regarder. Il y a aussi les vieilles 1320, évoluant parmi cette jeunesse, aux yeux délicieusement mélancoliques ou tourmentés. Les bonnes vieilles, si étonnantes à présent, avec leur visage placide et grave, leur magnifique chevelure nattée, que le travail intellectuel n'a point éclaircie, leur turban de gaze, brodé de fleurettes au crochet, et leur lourde soie, toujours achetée à Damas, pour ne pas faire gagner les marchands de Lyon, qui sont des infidèles. De temps à autre, quand passe une invitée de distinction, je dois me lever pour lui rendre sa révérence, le téména, aussi profonde qu'il lui a plu de me le faire, et si c'est une jeune, la prier de prendre place un instant à mes côtés. En vérité, je crois que maintenant je commence à m'amuser pour tout de bon, comme si l'on défilait pour une autre, et que je ne fusse point en cause. C'est que le spectacle vient de changer soudain, et du haut de mon trône, je suis si bien placé pour n'en rien perdre. On a ouvert toutes grandes les portes de la rue. Entre qui veut, invité ou pas, est admise toute femme qui a envie de voir la mariée. Et il en vient de si extraordinaire, de ces passantes inconnues, toutes gens de Chachaf ou Yachmak, toutes fantômes, le visage caché suivant la mode d'une province ou d'une autre. Les antiques maisons grillées et regrillées d'alentour se vident de leurs habitantes ou de leurs hôtesses de hasard, et les étoffes anciennes sont sorties de tous les coffres. Il vient des femmes enveloppées de la tête aux pieds dans des soies asiatiques étrangement lamées d'argent ou d'or. Il vient des Syriennes éclatantes et des Persanes toutes drapées de noir. Il passe jusqu'à des vieilles centenaires courbées sur des bâtons. La galerie des costumes, me dit tout haut Bamelec, qui s'amuse aussi. À 4 heures, arrivée des dames européennes. Ça, c'est l'épisode le plus pénible de la journée. On les a retenues longtemps au buffet, mangeant des petits fours, buvant du thé ou même fumant des cigarettes. Mais les voilà qui s'avancent en cohorte vers le trône de la bête curieuse. Il faut vous dire, André, qu'il y a presque toujours avec elle une étrangère imprévue qu'elle s'excuse d'avoir amenée, une touriste anglaise ou américaine de passage, très excitée par le spectacle d'un mariage turc. Elle arrive, celle-ci, en costume de voyage, peut-être même en bottes d'alpiniste, avec ses mêmes yeux hagards, qui ont vu la terre du sommet de l'Himalaya ou contemplé du haut du Cap Nord le soleil de minuit, elle dévisage la mariée. Et pour comble, ma voyageuse à moi celle que le destin me réservait en partage, est une journaliste qui a gardé aux mains ses gants sales du paquebot. Indiscrète, furteuse, avide de copies pour une feuille nouvellement lancée, elle me pose les questions les plus stupéfiantes avec un manque de tact absolu. Mon humiliation n'a plus de bornes. Bien déplaisantes et bien vilaines, les dames perrottes qui arrivent très empanachées. Elles ont déjà vu 50 mariages, celles-ci, et staffent au bout du doigt comment les choses se passent. Cela n'empêche pas, au contraire, leurs questions si niaises que méchantes. Vous ne connaissez pas encore votre mari, n'est-ce pas? Comme c'est drôle tout de même, quel étrange usage! Mais ma chère amie, vous auriez dû tricher, tout simplement. Et vous ne l'avez pas fait, bien vrai, non? Oh, tout de même, à votre place, moi j'aurais refusé net. Et ce disant, des regards de moquerie échangés avec une dame grecque, la voisine également perrotte et des petits ricanements de pitié. Je souris quand même, puisque c'est la consigne. Mais il me semble que ces pimbèches me giflent au sang sur les deux joues. Enfin, elles sont parties. Toutes. Les visiteuses en tchatchaf ou en chapeau. Restent les seules invitées. Et le lustre, les lampes qu'on vient d'allumer, n'éclairent plus que des toilettes de grand apparat. Rien de noir, puisqu'il n'y a pas d'homme. Rien de sombre, une foule délicieusement colorée, diaprée.
Je ne crois pas, André, que vous ayez en Occident des réunions d'un pareil effet. Du moins, ce que j'en ai pu voir dans les bals d'ambassade quand j'étais petite fille, n'approchait point de ceci comme éclat. À côté des admirables soies asiatiques étalées par les grands-mères, quantité de robes parisiennes qui semblent encore plus diaphanes. On les dirait faites de brouillard bleu ou de brouillard rose. Toutes les dernières créations de vos grands couturiers, pour parler comme ces imbéciles-là, pensez à ravir par ces petites personnes dont les institutrices ont fait des Françaises, des Suissesses, des Anglaises, des Allemandes, mais qui s'appellent encore Khadijé ou Chéref ou Fatma ou Aïché et qu'aucun homme n'a jamais aperçu. Je puis à présent me permettre de descendre de mon trône où j'ai paradé 5 ou 6 heures. Je puis même sortir de ce salon bleu où sont groupés surtout les aïeuls, les fanatiques et dédaigneuses 1320 à l'esprit saint et rigide sous les bandeaux à la Vierge et le petit turban. J'ai envie plutôt de me mêler à la foule des jeunes déséquilibrés et comme moi qui se pressent depuis un moment dans un salon voisin où l'orchestre joue. Un orchestre de cordes accompagnant 6 chanteurs qui disent à tour de rôle des strophes de Zia Pacha, d'Hafiz ou de Saadi. Vous savez, André, ce qu'il y a de mélancolie ou de passion dans notre musique orientale. D'ailleurs, vous avez essayé de l'exprimer, bien que ce soit indicible. Les musiciens, des hommes, sont enveloppés hermétiquement d'un immense vélum en soie de Damas. Songez donc, quel scandale si l'un d'eux allait nous apercevoir. Et mes amis, quand j'arrive, viennent d'organiser une séance de bonne aventure chantée. Un jeu qui se fait autour des orchestres les soirs de mariage. L'une dit « La première chanson sera pour moi ». L'autre dit « Je prends la seconde ou la troisième, etc. » Et chacune considère comme prophétique pour soi-même les paroles de cette chanson-là. « La mariée prend la cinquième, » dis-je en entrant. Et quand cette cinquième va commencer, toute s'approche, l'oreille tendue pour n'en rien perdre, se serre contre le vélum de soie, tire dessus au risque de le faire tomber. « Moi qui suis l'amour, » dit alors la voix du chanteur invisible, « mon geste est trop brûlant, même si je ne fais que passer dans les armes. » Toute la vie ne suffit pas à fermer la blessure que j'y laisse. Je passe, mais la trace de mon pas reste éternellement.
Moi qui suis l'amour, mon geste est trop brûlant. Ben qui a qui m'a srémin y a slama taim khatid. Durma yud chichut vida, etc. Comme elle est vibrante et belle, la voix de cet homme, que je sens toute proche, mais qui reste cachée et à qui je puis prêter l'aspect, le visage et les yeux qu'il me plaît. J'étais venu là pour essayer de m'amuser comme les autres. L'horoscope, si souvent, suggère quelque interprétation drôle, et on l'accueille par des rires malgré la beauté de sa forme. Mais cette fois, sans doute, l'homme a trop bien et trop passionnément chanté. Les jeunes femmes ne rient pas, non, aucune d'elles, et me regardent. Quant à moi, il ne me semble plus, comme j'en avais le sentiment ce matin, que l'on ensevelit aujourd'hui ma jeunesse, non. D'une façon ou d'une autre, je me séparerai de cet homme, à qui on me livre. Je vivrai ma vie ailleurs, je ne sais pas où. Je rencontrerai l'amour au geste trop brûlant. Alors, tout me paraît transfiguré. Dans ce salon, je ne vois plus les compagnes qui m'entourent. Toutes ces fleurs, dans les grands vases, répandent soudain des parfums dont je suis grisé, et les lustres de cristal rayonnent comme des astres. Est-ce de fatigue ou d'extase? Je ne sais plus, mais ma tête tourne. Je ne vois plus personne, ni ce qui se passe autour de moi. Et tout m'est égal, parce que je sens à présent qu'un jour, sur la route de ma vie, je trouverai l'amour, et tant pis si j'en meurs. Un moment après, un moment ou longtemps, ou je ne sais pas, ma cousine Javidée, celle qui a ce matin frappé son bonheur sur ma tête, s'avance vers moi. Mais tu es toute seule. Les autres sont descendues pour le souper et elles attendent. Que peux-tu bien faire de si absorbant? Oui, c'est pourtant vrai que je suis seul et le salon vide. Partis les autres et quand donc? Oh, je ne m'en suis pas aperçu. Javidée est accompagnée du nègre qui doit porter ma traîne et crier sur mon passage « Destour !» pour faire écarter la foule. Elle prend mon bras et, tandis que nous descendons l'escalier, me demande tout bas « Je t'en prie, ma chérie, dis-moi la vérité. À qui pensais-tu quand je suis monté ?» André Léry. André Léry, non, oh, tu es folle ou tu t'abuses de moi. Ah, André Léry, alors c'était vrai ce qu'on m'avait conté de ta fantaisie. Et elle riait maintenant, tout à fait rassurée. Enfin, avec celui-là au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de rencontre à craindre. Mais moi, à ta place, je rêverais mieux encore. Ainsi tiens, je me suis laissé dire que dans la lune, on trouvait des hommes charmants. Il faudrait creuser cette idée, ma chérie. Un lunois, tant qu'à faire, il me semble que pour une petite maboule comme toi, ce serait plus indiqué. Nous avons une vingtaine de marches à descendre, très regardées par celles qui nous attendent au bas de l'escalier. Nos queues de robe, l'une blanche et l'autre mauve, réunissent à présent entre les mains gantées de ce singe. Par bonheur, son lunois, ma chère Javidée, son lunois, si imprévu, me fait rire comme elle, et nous voici toutes deux avec la figure qu'il faut pour notre entrée dans les salles de souper. Sur ma prière, il y a tablée à part pour les jeunes. Autour de la mariée, une cinquantaine de convives au-dessous de 25 ans, et presque toutes jolies. Sur ma prière aussi, la nappe est couverte de roses blanches, sans tiges ni feuillages, posées à se toucher. Vous savez, André, que de nos jours, on ne dresse plus le couvert à la turque. Donc, argenterie française, porcelaine de Sèvres et verrerie de Bohême, le tout marqué à mon nouveau chiffre. Notre vieux faste oriental à ce dîner de mariage ne se retrouve plus guère que dans la profusion des candélabres d'argent, tous pareils,
qui sont rangés en guirlande autour de la table, se touchant comme les roses. Il se retrouve aussi, j'oubliais, dans la quantité d'esclaves qui nous servent, aux 50 pour le moins. Rien que pour notre salle de jeu, toute circassienne, admirablement stylée et si agréable à regarder. Des beautés blondes et tranquilles, évoluant avec une sorte de majesté native, comme des princesses. Parmi les jeunes turques assises à ma table, presque toutes d'une taille moyenne, d'une grâce frêle, avec des yeux bruns, les quelques dames du palais impérial qui sont venues, les Sarélis se distinguent par leur stature de déesse, leurs admirables épaules et leurs yeux couleur de mer. Des circassiennes encore, celles-ci, des circassiennes de la haute montagne ou des champs, filles de laboureurs ou de bergers, achetées toutes petites pour leur beauté, ayant fait leurs années d'esclavage dans quelques sérails et puis d'un coup de baguette devenues grandes dames avec une grâce stupéfiante pour avoir épousé tel chambellan ou tel autre seigneur. Elles ont des regards de pitié, les belles Sarailis, pour les petites citadines au corps fragile, aux yeux cernés, au teint de cire, qu'elles nomment les dégénérés. C'est leur rôle à elles et à leurs milliers de sœurs que l'on vient vendre ici tous les ans, leur rôle d'apporter dans la vieille cité fatiguée le trésor de leur sang pur. Grande gaieté parmi les convives. On parle et on rit de tout. Un souper de mariage pour nous autres Turcs est toujours une occasion d'oublier, de se détendre, de s'étourdir. D'ailleurs, André, nous sommes foncièrement gais, je vous assure. Si donc à rien nous détourne de nos contraintes, de nos humiliations quotidiennes, de nos souffrances, nous nous jetons volontiers dans l'enfantillage et le fou rire. On m'a conté qu'il en était de même dans les cloîtres d'Orient et d'Occident, et que les religieuses les plus murées s'y amusent parfois entre elles à des plaisanteries d'école primaire. Et une Française de l'ambassade, sur le point de retourner à Paris, me disait un jour « Oh, c'est fini, jamais plus je ne rirai d'aussi bon cœur, ni aussi innocemment du reste que dans vos harems de Constantinople. » Le repas ayant pris fin sur un toast au champagne en l'honneur de la mariée, les jeunes femmes assises à ma table proposent de laisser reposer l'orchestre turc et de faire de la musique européenne. Presque toutes sont d'habiles exécutantes, et s'en trouvent de merveilleuses. Leurs doigts, qui ont eu tant de loisirs pour s'exercer, arrivent le plus souvent à la perfection impeccable. Beethoven, Grieg, Liszt ou Chopin leur sont familiers. Et pour le chant, c'est Wagner, Saint-Saëns, Holmès ou même Chaminade. Hélas, je suis obligé de répondre en rougissant qu'il n'y a point de piano dans ma demeure. Stupéfaction alors parmi mes invités, et on me regarde avec un air de dire « Pauvre petite, faut-il qu'on soit assez 1320 chez son mari ? Eh bien, ça promet d'être réjouissant l'existence dans cette maison. » 11 heures. On entend piaffer sur les pavés dangereux les chevaux des magnifiques équipages. Et la vieille rue montante est toute pleine de nègres en livrée qui tiennent des lanternes. Les invités remettent leurs voiles, s'apprêtent à partir. L'heure est même bien tardive pour des musulmanes. Et sans la circonstance exceptionnelle d'un grand mariage, elles ne seraient point dehors. Elles commencent à prendre congé. Et la mariée, debout indéfiniment, doit saluer et remercier chaque dame qui a daigné assister à cette humble réunion. Comme ma grand-mère à son tour s'avance pour me dire adieu, son air satisfait exprime clairement « Enfin, nous avons marié cette capricieuse, quelle bonne affaire !» On s'en va. On me laisse seul dans ma prison nouvelle. plus rien pour m'étourdir. Me voici tout au sentiment que l'irrémédiable s'accomplit. Zeynep et Melek, mes bien-aimées petites sœurs, restez les dernières, s'approchent maintenant pour m'embrasser. Nous n'osons pas échanger un regard par crainte des larmes. Elles s'en vont, elles aussi, laissant retomber les voiles sur leur visage. C'est fini. Je me sens descendu au fond d'un abîme de solitude et d'inconnu. Mais ce soir, j'ai la volonté d'en sortir. Plus vivante que ce matin, je suis prête à la lutte, car j'ai entendu l'appel de l'amour au geste trop brûlant. Reviens m'informer alors que le jeune bey, mon époux, en haut, dans le salon bleu, attend depuis quelques minutes le plaisir de causer avec moi. Il arrive de Kassim Pacha, de chez mon père, où il y avait un dîner d'hommes. Eh bien, moi aussi, il me tarde de le revoir et de l'affronter. Et je vais à lui, le sourire aux lèvres, tout armé de ruses, décidé à l'étonner d'abord, à l'éblouir, mais l'âme emplie de haine et de projets de vengeance. Un foufou de soie derrière elle, tout près la fit tressaillir. Sa belle-mère arrivait à pas velouté de vieille chatte. Heureusement, elle ne lisait point le français, celle-ci étant tout à fait vieux jeu, et de plus, elle avait oublié son face à main. « Eh bien, chère petite, c'est trop écrire, ça. Depuis tantôt 3 heures, assise à votre bureau. C'est que je suis déjà venu souvent, moi, sur la pointe du pied. Voilà votre Hamdi qui va rentrer, ils disent. Et vous aurez vos jolis yeux tout fatigués pour le recevoir. Allons, allons, reposez-vous un peu. Serrez-moi ces papiers jusqu'à demain. » Oh, pour serrer les papiers, elle ne se fit point prier. Vite les serrer à clé dans un tiroir, car une autre personne venait d'apparaître à la porte du salon, une qui lisait le français et qui avait le regard perçant. La belle Durdanée, grain de perles, cousine d'Amdi Bey, récemment divorcée et en visite dans la maison depuis avant-hier. Des yeux au henné, des cheveux au henné, un trop joli visage avec un mauvais sourire. En elle, la petite mariée avait déjà pressenti une perfide. Inutile de lui recommander à celle-là de soigner son aspect pour l'arrivée d'Amdi, car elle était la coquetterie même, devant son beau cousin surtout. « Tenez, ma chère petite, reprit la vieille dame en présentant un écrin fané, je vous ai apporté une parure de ma jeunesse. Comme elle est orientale, vous ne pouvez pas dire qu'elle est démodée. Elle fera si bien sur votre robe d'aujourd'hui. » C'était un collier ancien qu'elle lui passa au cou. Des émeraudes dont le vert, en effet, s'harmonisait délicieusement avec le rose du costume. « Oh, ça vous va, ma chère enfant, ça vous va, c'est à ravir. Notre Hamdi, qui s'y entend si bien aux couleurs, vous trouvera irrésistible ce soir. » Elle-même y tenait certainement à ce que Hamdi la trouva plaisante, car elle comptait sur son charme comme principal moyen de lutte et de revanche. Mais rien ne l'humiliait plus que cette manie qu'on avait de la parer du matin au soir. « Ma chère petite, relevez donc un peu cette gentille mèche-là sur l'oreille. Notre Hamdi vous trouvera encore plus jolie. Ma chère petite, mettez donc cette rosetée dans vos cheveux. C'est la fleur que votre Hamdi préfère. » Tout le temps ainsi, traité en odalisque, en poupée de luxe, pour le plus grand plaisir du maître. Une rougeur aux joues, elle avait remercié à peine de ce collier d'émeraude, quand un nègre de service vint dire que le bey était en vue, qu'il arrivait à cheval et tournait l'angle de la plus proche mosquée. La vieille dame aussitôt se leva. « Oh, il est temps de battre en retraite, Durdan et nous autres. Allez, ne gênons pas les nouveaux mariés, ma chère. » Elles prirent la fuite comme 2 cendrillons, et Durdanée, se retournant sur le seuil avant de disparaître, envoya pour adieu son méchant sourire agressif. La petite mariée, alors, s'approcha d'un miroir. L'autre jour, elle était entrée chez son mari, aussi blanche que sa robe à traîne, aussi pure que l'eau de ses diamants. Pendant sa vie antérieure, toute consacrée à l'étude, loin du contact des jeunes hommes, jamais une image sensuelle n'avait seulement traversé son imagination. Mais les câlineries de plus en plus enlaçantes de ce Hamdi, la senteur saine de son corps, la fumée de ses cigarettes, commençaient malgré elle de lui insinuer en pleine chair un trouble que jamais elle n'aurait soupçonné. Dans l'escalier, le cliquetis d'un sabre de cavalerie. Il arrivait, il était tout prêt. Et elle savait imminente l'heure où s'accomplirait entre leurs deux êtres cette communion intime qu'elle se représentait du reste qu'imparfaitement. Or, voici qu'elle sentait pour la première fois un désir inavoué de sa présence et la honte de désirer quelque chose de cet homme lui faisait monter dans l'âme une poussée nouvelle de révolte et de haine.